VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 10h, temps universel, 3 ans de prison avec sursis et confiscation de biens pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. C'est la peine infligée par la justice française au vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, dans l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang, qui ne s'était pas présenté lors de son procès, a été reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics, blanchiment d'abus de confiance et blanchiment de corruption. La justice suisse s'intéresse également de près à Théodorin Obiang. 11 véhicules de luxe lui appartenant ont été saisis à Genève au mois de novembre. En visite de 3 jours en République démocratique du Congo, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, était hier à Goma et à Kinshasa, au nord Kivu, où elle a notamment visité un camp de déplacés dans lequel vivent près de 15 000 personnes. Madame Haley échange ce vendredi avec, entre autres, le président Joseph Kabila. Mais la visite de la diplomate américaine est diversement perçue à Kinshasa, nous dit Thierry Kamboudi de Top Congo FM, notre station partenaire.
À Kinshasa, les attentes sont multiples concernant le séjour de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Si pour Lambert Mendeo Malanga, le porte-parole du gouvernement, et l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, conseiller principal au collège diplomatique du président Kabila, la diplomate américaine n'est pas venue parler politique, mais évaluer les réels besoins de la force onusienne en République démocratique du Congo. Au rassemblement, on en attend beaucoup plus. Dans un mémorandum lui adressé à Goma au Nord Kivu, cette plateforme politique de l'opposition réclame des sanctions ciblées contre Joseph Kabila et son entourage. Nous attendons de lui qu'il obtienne du président Kabila le respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016, a précisé de son côté Christophe Lutundula, cadre du G7. Dans les rues de la capitale de la RDC, la plupart des Kinois interrogés espèrent que cette première visite d'un cadre de l'administration Trump permettra l'accélération du processus électoral. Qu'elles mettent la pression sur nos autorités pour nous obtenir l'organisation rapide des élections, car nous voulons aller voter, a dit l'un d'eux. De retour à Kinshasa après Goma et Kichanga au Nord Kivu, Nikki Haley devrait échanger avec le président Kabila, les responsables de la CENIC, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, et Maman Sidikou, le numéro 1 de la MONUSCO. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La justice sud-africaine a condamné aujourd'hui 2 fermiers blancs à des peines de 19 et 16 ans de prison pour avoir tenté d'enfermer un noir dans un cercueil et l'avoir menacé de mort. Le comportement des accusés a été des plus déshumanisants et répugnants, a déclaré le juge Segopodje Mfalele, rendant son jugement devant la haute cour de Middelburg à 165 km à l'est de Johannesburg.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Sénat espagnol a débuté la séance plénière durant laquelle il doit autoriser le gouvernement à appliquer des mesures de mise sous tutelle de la Catalogne et de destitution de ses dirigeants indépendantistes. La séance a débuté peu après 10h, 8h GMT. L'issue du vote ne fait guère de doute. Le parti du chef du gouvernement, Mariano Rajoy, disposant de la majorité absolue pour approuver ces mesures en vertu de l'article 155 de la Constitution espagnole. Le rapport de l'ONU désignant le régime syrien comme responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur Khan Cheikhoun en avril comporte de multiples incohérences et des témoignages douteux, a dénoncé aujourd'hui la diplomatie russe. Dans un rapport de l'ONU publié jeudi, les experts se sont dit convaincus que la République arabe syrienne est responsable de l'usage de sarin sur Khan Cheikhoun le 4 avril 2017. Et puis le gouvernement conservateur australien a été privé aujourd'hui de majorité par la haute cour qui a jugé que le premier ministre adjoint Barnaby Joyce ne pouvait siéger au Parlement en raison de sa double nationalité. L'action de l'exécutif ne devrait cependant pas en partir dans l'immédiat, une élue indépendante ayant affirmé qu'elle ne soutiendrait pas une éventuelle motion de censure de l'opposition. 7 parlementaires issus de plusieurs partis australiens se sont retrouvés ces derniers mois au cœur d'une controverse politico-juridique piégée par une ancienne et obscure clause de la Constitution qui interdit aux titulaires d'une double nationalité de siéger. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.